18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 8 octobre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Le sort des migrants vous tient à cœur et vous cherchez à en savoir plus sur la vie dans les camps des migrants. Vous êtes bien tombés car aujourd'hui, on accueille trois étudiantes de médecine qui sont allées sur place pour apporter leur aide. Bonjour Anna Garoui.
Bonjour.
Bonjour Clara Cadiou.
Bonjour.
Bonjour Elena Urien.
Bonjour.
Donc toutes les trois, vous avez fait une année de césure. Vous êtes partie de Brest en novembre 2019 et vous avez passé plusieurs mois dans différents campus, dans différents camps, c'est la fatigue, que ce soit celui de Calais, celui de Marseille ou encore celui de Samos, jusqu'en mars 2020. Votre but, apporter une aide médicale dans les camps et plus généralement participer aux actions d'aide, mais aussi prendre des photos de témoignages. Des photos qu'on peut retrouver dans l'exposition Sclérigène, si je prononce bien, à la MJC, qui est donc la Maison des Jeunes et de la Culture de l'Arthe-Loire, jusqu'au 17 octobre. Donc j'ai d'abord quelques questions sur la préparation. Comment est née l'idée de ce projet ? Anna, si tu veux commencer.
Ouais. En fait, c'est né un peu par hasard. On a commencé à en discuter toutes les trois, mais chacune, on avait eu un peu l'idée de cette année de pause, en fait, entre notre cinquième et notre sixième année séparément. Et voilà, c'était un sujet qui nous touchait toutes les trois. Et du coup, l'idée de ce voyage ensemble est venue.
Ouais, Anna avait commencé à y réfléchir en première. Et puis après, on s'est greffé, l'idée a émergé à trois, quoi.
Envie d'une petite année de pause aussi, ouais. Envie d'un petit break dans les études et un break avec un sens. On avait envie de faire quelque chose d'un peu
utile.
Un peu utile, ouais.
Et du coup, sur la question du sens, pourquoi ce sujet vous touche autant, Elena, peut-être?
Pourquoi? C'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans les médias, voilà, et on n'est pas vraiment confronté à ça forcément dans nos villes, surtout en Bretagne. Et on avait envie d'aller questionner ce sujet-là sur place, de le voir de nos yeux, et puis apporter notre aide aussi, parce que c'est un sujet, ouais, qui nous touche et c'est un peu difficile d'être ici, d'entendre tout ça et de pas pouvoir apporter son aide.
Et voilà. Savoir que ça se passe si près aussi, quoi, ouais. Que Calais, t'as pas l'impression d'être en France. Ouais. Quand on était à Samos, sur l'île grecque de Samos, on est en Europe, mais en fait on n'a pas l'impression d'être en Europe et on se dit ça se passe se passe en Europe, c'est atroce et personne fait rien et c'est toujours pareil au final. Donc voilà, aller voir par nos propres moyens en fait comment ça se passe. Et
du coup, c'était la première fois pour toutes les trois que vous faisiez des actions pour les migrants.
Pour moi, oui.
Oui.
Pour toutes les trois, d'accord.
Pour toutes les trois, ouais.
Donc c'est un projet qui peut coûter cher. Comment vous avez fait en termes d'argent pour subvenir à vos besoins, parce que du coup vous étiez bénévole dans les différentes associations?
Tout à fait. Tu veux?
Ouais, du coup en fait en amont du projet on est passé dans différentes commissions parce qu'on a fait appel en fait des aides un peu financières, différentes aides au niveau de la faculté, au niveau de la ville, du département. Et voilà, donc on a monté un projet en lien avec ça et pour nous permettre justement d'assumer cette année, quoi.
Et on a aussi travaillé quelques mois avant en tant qu'aide-soignante à l'hôpital aussi pour mettre au bout, quoi. Parce que, voilà.
Du coup, vous avez fait une année de césure. C'est quelque chose qui vous faisait peur ?
Non, plutôt qui nous faisait du pain. T'as la perspective de nous faire du bien, en fait, de se dire qu'on allait faire une pause et ça nous a aidé plus à, enfin, en tout cas pour ma part, moi, à finir la cinquième année et de me dire qu'après on prenait un an, même si ça allait être dur ce qu'on allait voir, ça allait être complètement différent et ça allait changer notre quotidien brestois et Donc, moi, personnellement, ça ne me faisait pas peur. J'avais plutôt envie de me lancer dans l'année.
Moi, j'avais une petite appréhension quand même. Toujours un peu la petite peur de prendre un break, surtout dans des études assez longues, de se dire, bon, est-ce que la motivation sera là au retour? Et puis, oui, toujours un peu ouais, la peur de quitter le cursus. Mais en fait, non, c'était génial.
Mais c'est ça, plus dans l'idée aussi de sortir un peu du cadre, parce que finalement, dans nos études, on est peu à faire ça, prendre une année de pause comme ça. Donc, j'ai toujours un peu peur de...
C'est pas forcément valorisé.
Et du coup, pourquoi aller dans ces endroits-là, dans ces villes-là? Comment vous avez choisi?
En fait, Calais, que ce soit Calais comme Samos, c'est des villes, vraiment des endroits un peu phares de la route des migrants, de l'entrée en Europe. Donc la Grèce, c'est vraiment leur premier pas en Europe. Notamment l'île, parce que c'est l'île de Samos, à côté de Lesbos, c'est vraiment juste après la Turquie. Et après, en fait, Calais, c'était plus la fin de leur parcours, pour le coup, juste avant l'Angleterre. Et tous les deux, c'est vraiment des lieux aux frontières aussi. Ouais, c'est ça, et où il y a beaucoup de passages. Et
de bénévolat, du coup, qui se met en place.
Aussi. Beaucoup d'associations. Ouais, qui...
À la base, on pensait aussi aller à Vintimille, à la frontière italienne, mais avec le coronavirus, le projet a été avorté un peu plus tôt que prévu. Du coup, on n'est pas allé en Italie. Et juste par rapport à Marseille, comme vous le disiez dans l'introduction, en fait, c'était une idée de base, c'était de passer par Marseille et voir ce qui se faisait sur Marseille, tout ça. Finalement, il n'y a que moi qui y suis allée. Et puis, on n'est pas resté du tout longtemps à Marseille. On a tracé à Calais rapidement.
Et du coup, vous avez travaillé avec certaines associations. Pourquoi ces associations précises? Est-ce que c'est parce que c'est celles qui avaient dans les camps? Ou est-ce que vous avez vraiment choisi... certaines en particulier?
Alors pour le choix des associations, en fait, on a deux amies qui sont aussi étudiantes en médecine. Elles sont internes maintenant. Et elles ont pris une année de pause aussi avant nous. Elles sont allées, elles aussi, dans différents assos auprès des migrants. Et notamment Utopia 56, qui est l'asso dans laquelle on est allé à Calais. Donc c'est par elles, entre autres, qu'on a choisi Utopia, parce que c'est aussi une asso bretonne à la base et que ça nous fait plaisir d'aller avec nos pères. Et pour ce qui est de Samos, c'est aussi nos copines qui nous ont mis en relation avec... là, du coup, c'était une médecin qui tenait une clinique, parce qu'on était dans une clinique médicale à Samos. Et donc, elles avaient été amenées à travailler un peu avec elle, mais dans un autre cadre, c'était pas à Samos pour leur part. Et du coup, voilà, nous ont mis en relation avec cette médecin-là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à aller plutôt dans cette clinique.
Et par rapport à cet énorme projet, qu'en pensaient vos proches, donc vos amis, votre famille, mais du coup aussi vos professeurs de médecine, forcément? Elena, peut-être?
Les proches, c'est que les parents, au début, un petit peu d'appréhension. Et puis, bon, très vite, ils nous ont fait confiance, je pense. Et les professeurs... On a discuté surtout avec notre doyen, au final, et il a beaucoup aimé le projet, en fait. Je pense qu'il a... Évidemment, il nous a questionnés pas mal pour essayer de voir un peu le cadre du projet. Mais finalement, il nous a donné son accord et son aval assez facilement. Donc, on a été plutôt soutenus. Ouais.
Et on continue avec une pause musicale en écoutant Footsteps de Gitkin. Vous êtes sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Et on est toujours avec Anna Karaoui, Clara Cadiou et Elena Urien qui nous parlent de leur expérience de bénévole dans des camps de migrants. Du coup, on le disait tout à l'heure, vous êtes surtout resté à Calais et à Samos. Combien de temps vous êtes resté sur chaque lieu?
Bah, à Calais, on y était un mois et demi environ et deux mois à Samos.
Donc vous avez commencé par Calais. Est-ce que vous en aviez une image prédéfinie à cause des médias? On parle beaucoup de la jungle de Calais. Vous avez déjà des attentes ou des images prédéfinies?
Oui, un petit peu. Après, moi, ce que j'ai trouvé flagrant à Calais, c'est le nombre de grillages et de grilles qu'on voit partout. Enfin, c'est impressionnant. C'est une partie d'ailleurs de la vidéo qui est à l'exposition. C'est enfin. On ne voit, tout est grillage. Calais, c'est que des grillages. C'est un des trucs que je retiens de Calais. Après, il n'y a plus de jungle. À l'époque où nous, on y était, c'était trois campements qui étaient organisés plus par nationalité, en fait. Il y avait un campement avec les Afghans, un autre avec les Érythréens, et puis après il y avait ce qu'on appelait Big Jungle, qui est un peu un mélange de d'autres nationalités, des Iraniens, des Irakiens, des Soudanais. Et à Calais, la particularité de Calais, c'est qu'on a vu que des hommes, puisque les femmes et les enfants sont plutôt à Dunkerque. Ce qui n'était pas, par contre, à Samos, pour le coup, là, on était vraiment avec les familles, les enfants. Voilà. Après, je sais pas, les filles, vous, si.
Bah, après, c'est vrai que je trouve qu'elle est quand même. Moi, j'en avais jamais trop entendu parler. C'est plus justement via nos amis qui étaient allés. Enfin, je trouve qu'au. Justement, on n'en parle pas tant que ça, en fait, même dans les médias, ou. Enfin, au vu de ce qui se passe vraiment chaque jour là-bas. C'est peu relayé au final, je trouve. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre en fait en y allant.
C'est vrai que moi je pensais que toutes ces personnes-là n'étaient plus présentes depuis 2016 en fait,
le démantèlement.
De la jungle. Et ce qui au final était complètement faux, la population était bien moindre, mais il restait quand même à peu près 1000 personnes. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et voilà, c'était plus un bidonville, en fait, c'était des campements, quoi.
Mais du coup, beaucoup plus précaire aussi qu'avant, du temps de la jungle. Enfin, de ce qu'on a pu comprendre, en fait, parce que nous, on n'y était pas au temps de la jungle, mais...
Les évictions n'étaient pas aussi fréquentes déjà.
La jungle, c'était à peu près organisé. Il y avait des écoles, des églises, des restaurants. Là, ils sont dans les bois ou à côté d'un rond-point, au bord de la route. Les tentes, c'est s'ils ont la chance d'en avoir une. Enfin, c'est
tente de seconde.
C'est une tente de seconde. Il y a une bâche pour se protéger de la pluie si t'as de la chance. Et avec des démantèlements tous les deux jours par la police, donc ils sont très très précaires, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et justement, sur un des panneaux explicatifs de l'exposition, vous expliquez qu'à Calais il y a pas mal d'évacuations qui sont faites par la police, donc toutes les 48 heures. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que ça vous a choqué?
Pas du tout. Enfin non, moi je m'attendais pas du tout à ça. J'ai jamais vu autant de policiers de ma vie qu'à Calais. Enfin honnêtement, c'est impressionnant. Il y a une nuit, parce qu'on faisait des maraudes avec Utopia, et il y a une nuit, il y avait ce qu'on peut appeler une guerre de territoire entre différentes nationalités pour des points stratégiques pour monter dans les camions. Et la police du coup est intervenue et il y avait ils étaient 80, 100 flics. Enfin, c'était impressionnant. Tous avec des boucliers et et c'était, moi, j'ai jamais vu autant de policiers de ma vie qu'à Calais.
Puis en plus, c'est pas que pour des situations comme ça, un peu de conflit. C'est tout le temps, en fait, dans la vie de tous les jours. Ils sont toujours là, même les distributions où on était en train de rigoler avec les autres, enfin avec les gens, bah en fait ils sont toujours là, stationnés, et oui, c'est en permanence quoi. Il y a énormément de contrôle. Ouais.
Et est-ce que ça vous a choqué de voir le peu de bien que les gens pouvaient avoir se faire empaqueter et dépaqueter un peu chaque jour?
Je sais pas.
Bah oui, enfin dans le sens où en plus, enfin par rapport aux évictions, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Bah en fait, c'est assez fou, oui, parce que bah, c'est vraiment un cercle tout le temps, parce que donc les associations donnent des sacs de couchage, des tentes, et puis en fait c'est le jour d'après ils sont pris donc par les policiers quoi, et puis du coup ils ont plus rien, et du coup enfin voilà, et en fait c'est vraiment toujours le même cycle qui se répète quoi. Et
en tout cas au moment où nous on y était, il y avait, enfin on manquait énormément de sacs de couchage, de tentes, c'était un problème, enfin je pense que ça l'est tout le temps, c'est un problème très récurrent, du fait que il y a des migrants qui viennent nous voir et qui nous demandent une couverture, une bâche, et en fait on est démunis parce que on n'a pas le matériel, et du fait notamment de ces évictions quoi.
Et du coup, est-ce que tout ça, justement, ça vous a fait réfléchir à la notion de la propriété, au nombre important d'objets que nous, en tant qu'occidentaux, français, on peut avoir ici? Clara?
Alors, oui, bah après, du coup, ce qui est, nous, pendant notre année, du coup, bah, on a voyagé avec un sac, donc on apprend effectivement à restreindre ses besoins. Après, il y a restreindre ses besoins et vraiment ne rien avoir, en fait, quoi. Et donc, nous, restreindre nos besoins dans un sac pendant un an, c'est rigolo quand c'est toute une vie et que, en fait, on parle même pas de sac, là, on parle d'une tente et d'un sac de couchage.
Et même de vêtements parfois.
Ou même de vêtements, de chaussettes.
D'un gant, d'un bonnet, quand il fait au moins deux dehors et que oui. Donc oui, on est un peu au-delà du...
Et est-ce que justement, voir ça, ça a impacté votre manière de... Enfin, votre rapport aux objets aujourd'hui? Ou pas du tout
Moi, je pense que ça a plus impacté ma manière de voir les gens à la rue, plus que les objets. Ça a un peu changé mon regard sur les SDF, par exemple, ou plus ça, oui, que les objets en eux-mêmes, je sais pas.
Et donc, du coup, là, depuis tout à l'heure, on parle des camps, etc. Mais est-ce qu'en fait, vous pouvez tout simplement, chacune, nous parler des différentes missions que vous avez faites, concrètement? Donc, à Calais d'abord, et puis après, en Grèce.
Bah, donc, à Calais, en fait, c'était un travail un peu plus social... Voilà, donc il y avait différentes tâches, et donc il y avait les maraudes, donc ça c'était le soir, on partait vers 18h, et puis donc on commençait par une distribution de nourriture, en sachant qu'il y a quand même d'autres associations à Calais qui s'occupent des distributions dans la journée, mais nous on faisait un complément un peu avec l'association, et puis on se chargeait aussi pendant les maraudes d'accueillir un peu les nouvelles personnes qui arrivaient, notamment à la gare de Calais, qui étaient un peu sans rien, qui connaissaient pas l'endroit. On les orientait vers les différentes associations. On leur disait où est-ce qu'il y avait des distributions de nourriture, par exemple. Voilà. Ensuite, je sais pas, peut-être on va continuer.
On avait aussi un minibus. Et avec lequel on faisait des allers-retours entre les campements et l'hôpital pour notamment les emmener à leurs rendez-vous. Certains avaient des rendez-vous médicaux ou tout simplement aux urgences. Donc il y avait ce point-là. Il y avait aussi le local qui est un
accueil de jour.
Un accueil de jour, voilà, au centre-ville de Calais. Donc c'était un endroit avec des jeux de société, avec des ordinateurs, du café, avec une écoute aussi, des cours de français, des cours d'anglais.
Donc, et puis ouvert aux exilés à Calais, mais aussi aux SDF, en fait, les gens à la rue aussi. Du coup, il y avait un mélange un peu de gens.
Et sinon, qu'est-ce qu'on faisait d'autre?
Si, il y avait aussi un numéro d'urgence en fait où il y avait toujours, donc ça durait, c'est quand même un peu des astreintes où on avait donc ce numéro d'urgence et en fait les gens on leur donne quand ils arrivent, on leur donne ce numéro si vraiment ils ont un gros problème, voilà, et du coup ils pouvaient appeler et on était toujours, il y en avait toujours deux bénévoles qui étaient disponibles pour répondre à ce genre d'appel. Voilà.
Et une des grosses missions aussi, c'était d'essayer de les mettre à l'abri quand ils étaient demandeurs, donc par le biais du 115. Donc ça, on le faisait dans nos maraudes, en fait. Ils pouvaient venir nous voir et nous demander est-ce que d'appeler pour eux le 115. Et normalement, ils ont le droit à 3 nuits par mois au 115. Mais en fait, c'est donc effectivement, donc on appelait le 115 et très souvent, c'était des refus par faute de place. Donc régulièrement on se retrouvait un peu dans une impasse où on avait 20 personnes qui nous demandaient une mise à l'abri ce soir-là et auxquelles on pouvait pas répondre favorablement, quoi.
Voilà, après c'est toujours un peu les femmes ou les familles qui sont priorisées, mais c'est vrai que c'était la même chose tous les soirs, on avait tant de personnes qui voulaient pas dormir dehors en fait, et on faisait ce qu'on pouvait en appelant et en essayant de trouver des hébergements un peu d'urgence.
Parfois des hébergeurs citoyens qui s'y arrivaient.
Oui.
Et en Grèce, du coup, c'était les mêmes missions ou ça différait un petit peu?
Alors non. En Grèce, c'était donc Medical Team, c'est une association médicale. Donc c'était une petite clinique en fait, à 15 minutes du camp. Et donc là, c'était vraiment une clinique. Donc on était dans notre rôle un petit peu
d'étudiant
en médecine. Apporter notre aide médicale, quoi.
Et en fait, la particularité de Samos, c'est que, là, c'est justement un peu en train de changer avec le corona, mais à Samos, on n'a pas le droit de rentrer dans le camp. Aucune association n'a le droit de rentrer dans le camp. C'est pas le cas à Lesbos. Je sais pas pourquoi plus à Samos qu'à Lesbos, mais bon, toujours dit qu'on n'avait pas le droit d'entrer dans le camp et que du coup, c'était les migrants qui descendaient. Je dis qu'ils descendaient parce que le camp est en pente. Qui descendaient du coup dans le centre et à la clinique pour nous voir. Et c'était une clinique où on pouvait voir entre 100 et 200 patients par jour. Donc ça fait du monde. Ouais. Et puis on faisait ce qu'on pouvait, quoi. Il y avait une équipe d'à peu près de 30 personnes avec des traducteurs qui étaient, pour la plupart d'entre eux, eux-mêmes réfugiés. Et du coup, qui dormaient dans le camp la nuit et qui le matin se levaient quand même pour venir avec nous traduire les mots de leurs voisins de tente. Ça crée des situations un peu particulières des fois, mais c'était vraiment la différence marquante entre Calais et Samos, c'est le contact qu'on a pu avoir par ce biais-là avec les réfugiés avec qui on est encore en contact et qu'on n'avait pas du tout à Calais, puisqu'à Calais on était plus dans une prestation de service directe, alors qu'à Samos, non seulement parce qu'on était dans le soin, donc les gens se confient plus aussi. Et puis surtout les traducteurs avec qui du coup on mangeait le soir, avec qui on faisait des soirées pour décompresser après une journée difficile.
C'était vraiment nos collègues de travail au final. On était au même niveau, quoi.
Ouais. Et justement, en parlant de contact, est-ce qu'il y a une rencontre avec un réfugié qui vous a particulièrement marqué?
Plusieurs.
Ouais. Plusieurs. Il y en a une notamment, Moaz, on en parle dans l'exposition, on a fait son portrait. Donc, qui lui est un réfugié syrien, qui était traducteur à la clinique et qui est toujours, il me semble, traducteur arabe-anglais, et qui a donc quitté son pays à cause de la guerre notamment, et qui aujourd'hui, qui a travaillé d'abord en Turquie pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille, puis qui est parti. Qui a décidé de partir avec son frère de la Turquie parce que la vie était vraiment difficile pour eux. Le racisme est extrêmement présent en Turquie. Et donc il est arrivé à Samos peu de temps avant nous, en fait. Et il a, de par son anglais, il a réussi à travailler dans cette association. Et... je pense que ça l'aide beaucoup. Je pense que tous les traducteurs qui travaillaient là, ce travail-là était vraiment d'une grande aide pour tenir tous les jours. Et ouais, c'est vraiment devenu un ami. Un ami, et ouais. Voilà. Puis il y en a eu d'autres, il y a eu... Enfin, je sais pas.
Il y en a forcément beaucoup. Hein. Ouais. Et du coup, juste avant de continuer les questions, on va écouter le reportage qu'a réalisé Mathilde Albert, donc qui était elle aussi bénévole dans le camp de Samos, mais cette fois en été 2019, et qui interroge deux migrants sur leur parcours jusqu'au camp.
Nous vous proposons l'écoute de deux témoignages de personnes exilées. Ils ont été enregistrés au cours de l'été 2019, dans le camp de réfugiés de Samos, par Mathilde Albert, bénévole en mission au sein de l'association Migre Europe. Vous entendrez successivement le témoignage de Flora, puis celui de Nelson. Leurs prénoms ont été modifiés. Nous souhaitons vous avertir que la question du viol sera abordée dans le témoignage qui va suivre.
Flora a 33 ans et était coiffeuse au Cameroun. Elle décide de quitter son pays natal pour gagner l'Europe et débarque à Samos en janvier 2019. Elle nous raconte sa traversée de la Turquie à la Grèce.
Donc, on est allé voir, donc, c'est un passeur. Toujours les Turcs qui font traverser des gens ici. Il nous a fait traverser, on arrive dans la forêt. Ils m'ont violée encore.
La forêt, c'était où? C'était pour passer,
C'était une traversée, c'est une route, on appelle ça pour traverser, pour venir en Grèce. Mmh. Donc il y a vraiment la forêt. Mmh. On a marché 5 heures de temps.
Depuis Izmir.
De Izmir pour arriver d'où on fait traverser. Mmh. Des gens, 5 heures de temps. Non, 6 heures de temps, pardon. Mmh. On a marché 6 heures de temps. On était en groupe. Mmh. Et quand on était en groupe comme ça, là, lui... Nous étions deux filles, ils nous ont mis à part. Parce qu'il y avait aussi des blancs et des noirs. Ils nous ont mis à part des arabes là.
C'est comme ça. Quand vous étiez arrivés pour la traversée.
Oui, quand nous étions arrivés pour la traversée. Ils nous ont mis à part. Et on était de notre côté toutes seules quoi. Mmh. On n'était pas mélangés avec des autres personnes.
Tu comprenais ce qui se passait?
Moi je comprends pas la langue. Mmh. Je ne sais pas. Je sais seulement que s'il m'a mis là, ça veut dire qu'il reviendrait me chercher pour m'amener d'où au centre du bateau, quoi. Mmh. Mais par contre, c'était pour nous violer. Ils étaient trois. C'est comme ça qu'ils nous ont violés. Après, subitement, quand nous on se lève, quand il fait comme ça, on crie et ils partent. Subitement, quand nous on veut se lever pour se tourner, on voit que la police, les Turcs, ils nous arrêtent, ils nous amènent en cellule. C'est alors comme ça que je pars. J'attends une semaine, rien. Et 2 semaines, je pars donc à l'hôpital du camp d'ici là, pour choquer, pour en parler, pour raconter encore une autre personne, pour lui dire mon histoire, si on peut m'envoyer à l'hôpital, pour et tout ça, parce que on me dit qu'on m'a opéré, j'ai fait une grossesse extra-utérus, qu'on m'a supprimé une trompe, je sais pas de quel côté, ou c'est du côté gauche, ou c'est du côté droit, jusqu'à présent, je connais pas. Je sais pas. Jusqu'à présent, je connais pas.
Ça fait 5 mois et tu sais pas.
Ça fait plus de 5 mois. Qu'on m'a opéré depuis février, le 23 février. J'ai pas de suivi. Je suis comme ça, là. Et je ne saigne même pas depuis ce jour-là. Je n'arrive plus, je ne saigne pas, je n'ai pas mes cycles mensuels et tout ça. Je ne sais pas comment, vraiment, je ne comprends pas. Quand? Jusqu'à présent, j'ai pas de rendez-vous. L'autre jour encore, ça fait peut-être une semaine, parce que le 13, on peut dire une semaine. Je suis allée encore à l'hôpital là-bas. J'ai dit que non, jusqu'à présent, j'ai mal. J'ai vu la sage-femme, la gynécologue. La gynécologue a dit que non, il faut que j'aille plutôt à la grande hôpital. Le gynécologue qui peut mieux prendre son nom. Elle m'a donné rendez-vous que j'aille à la grande hôpital. Je suis allée à la grande hôpital. On me donne rendez-vous jusqu'en décembre. Que bientôt,
décembre.
Jusqu'à le 12 décembre. Que bientôt, je vais faire 1 an. Je n'ai pas de suivi. Que bientôt. Depuis l'opération, puisque février, ça va faire 1 an. Que bientôt 1 an, je n'aurai pas de suivi par rapport à ma santé. Je ne connais pas, je ne sais pas comment je suis. Et je ne sais pas si un jour je vais encore même saigner. Je suis là que comme ça. Mais je mange, Dieu me donne la grâce de manger. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas à l'intérieur de moi. Donc.
Flora est aujourd'hui retenue sur le sol grec, dans le camp de Ritsona, aux abords d'Athènes. Sa procédure d'asile est toujours en cours de traitement, après 20 mois d'attente.
Nelson a 33 ans et était journaliste sportif en République démocratique du Congo. Il arrive sur l'île de Samos en juin 2019.
Et bonjour, je suis immigré, je vis actuellement en Grèce. Bon, de mon parcours arrivé jusqu'ici en Grèce, j'ai connu beaucoup de problèmes. Bon, dans mon pays d'origine aussi, j'ai connu tellement de problèmes que je pense que je n'ai pas envie de venir sur ça parce que ce sont des problèmes. Si aujourd'hui je suis ici, c'est grâce à tous ces problèmes-là. Parfois, si j'ai raison sur ces problèmes, je ne me sens pas vraiment bien. Je ne peux pas retourner, soit parler aussi de ça, c'est ça. Mais en Turquie, je suis venu de la Turquie. En Turquie, en tout cas, je pense que nous, les Noirs, nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains. Nous ne sommes pas vraiment considérés comme des êtres humains. Parfois, on te crache sur le visage. Tu n'as pas le droit de réclamer quelque chose, de parler. J'avais envie de rester en Turquie.
Tu es resté combien de temps,
en Turquie, au moins plus ou moins un mois. Oui, j'avais envie de rester en Turquie, malheureusement. Vu ce que j'ai vécu en Turquie, ça m'a vraiment poussé. Moi, bon, je suis encore à presque à 4 mois. Il y a des amis qui ont déjà fait ici au moins plus ou moins 15 mois. Je connais des amis, mais moi, je suis pas seulement 4 mois, mais pour faire au moins 10 jours ici, soit 5 jours, avec des conditions pareilles, je pense, c'est très difficile. C'est très difficile parce que s'il y a la pluie, vraiment c'est difficile. Parfois, quand je suis seul, je raisonne beaucoup. Parfois, je pleure. Quand je raisonne tout ça. Ouais, quand je suis seul, je pense toujours, en tout cas, j'ai fait un mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix, en tout cas. Je regrette d'être venu. Je pense pour terminer, pour donner soit un message à ceux qui gouvernent le monde. Là, je peux dire, parce que la France fait partie. De ceux qui gouvernent le monde, en tout cas, je pense qu'il faut aider l'Afrique convenablement. Je pense aujourd'hui, envoyer de l'argent, soit en Grèce, ou bien aider les immigrés en Grèce, ce n'est pas vraiment une solution. Ce n'est pas arrêter l'hémorragie. Pour arrêter l'hémorragie des immigrés, je pense. Le problème se trouve en Afrique. Au moins, laisser la population faire leur choix, je pense que c'est ça. Mais quand vous, le plus fort, vous nous imposez des dirigeants, vous nous imposez presque surtout, c'est ça qui fait aussi qu'on puisse fuir nos pays pour venir souffrir ici. Pour arrêter l'hémorragie des immigrés, moi je peux dire que l'Afrique doit être indépendante. Économiquement, politiquement, c'est ça. Si aujourd'hui l'Afrique est vraiment indépendante sur tous ces points-là, je pense qu'il y aura moins des immigrés ici, en Europe. Je peux vous donner même l'exemple. En tout cas, ici au camp, je n'ai jamais vu un Sud-Africain. Je n'ai jamais vu un Sud-Africain. Surtout les anglophones, c'est rare, à part le Ghana, la Gambie, la Somalie, le Soudanais, la Sierra Leone. Là, au moins ce pays-là, anglophones, qui sont représentés aussi. Mais ici, au camp, au moins, tous les pays francophones sont représentés. Pour dire que, au moins, les pays francophones de l'Afrique souffrent sur tous les plans. Presque tous les pays francophones de l'Afrique sont représentés ici, au camp.
Nelson a quitté Samos en mars 2020 pour rejoindre le continent grec.
On est sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites avec nos invités Anna Garaoui, Clara Cadiou et Elena Urien. Et on vient d'écouter le témoignage de deux migrants, Flora et Nelson. Donc là, dans le témoignage, Flora et Nelson ont accepté de parler de leur traversée. De manière générale, est-ce que les migrants parlaient relativement facilement de ce qu'ils avaient fui et de comment s'était passée la traversée ? Anna ?
Après, entre Calais et Samo, je pense que c'était bien différent parce que, de par notre travail, mais notamment à Samos, en fait, dans le cadre médical et vraiment l'intimité un peu des consultations, faisait que, oui, en fait, on avait accès vraiment aux histoires de vie des gens qui, pour une fois aussi, pouvaient en parler et être écoutés. Alors, c'est vrai que, comme tu disais, Clara, il y avait beaucoup de patients chaque jour à la clinique, donc on ne pouvait pas écouter tout le monde autant qu'on aurait voulu, mais oui, en tout cas, on avait beaucoup de témoignages comme ça, spontanés des patients, en fait.
Et beaucoup de personnes en détresse aussi psychique, à qui on pouvait pas vraiment proposer d'aide psychologique, puisque tout simplement il n'y a pas de psychologue ou de psychiatre sur l'île. Et puis, en fait, à part la clinique et MSF qui était présent pour les femmes enceintes, notamment, c'était le rôle de MSF, c'était les femmes enceintes sur l'île, il n'y a personne, si ce n'est un médecin dans le camp pour 7600 personnes quand on y était. Donc ça fait du monde juste pour un médecin. La clinique qui assurait la grosse part du médical, quoi. Et après, il y a un hôpital qui est présent sur l'île, mais il faut vraiment avoir une bonne raison pour pouvoir amener un patient migrant à l'hôpital. Donc on était un peu limité dans ce côté apporter une aide psychologique, quoi.
On a entendu dans le témoignage de Flora qu'elle s'est faite violer. Et c'est quelque chose, on le sait, qui est quand même assez courant dans les camps. Est-ce que, justement, vous avez eu beaucoup d'échos de situations de ce type ?
Oui, énormément. C'est ça qui était assez, assez troublant, assez percutant, en fait. C'est que ça revenait très régulièrement, quasiment une consultation sur deux. Puis ça devenait une question récurrente qu'on demandait en début de consultation. Est-ce que vous avez été violentée ? Est-ce que vous avez été violentée sexuellement ? Et c'était très fréquent, des femmes comme des hommes jeunes. C'était beaucoup des hommes noirs, surtout en Turquie, souvent. Enfin, en fait, le racisme est extrêmement présent, donc surtout pour les hommes de couleur noire. Et ils subissaient beaucoup plus de violences, dont les viols. Et ouais, c'est quelque chose qu'on a... avec laquelle on a appris un peu à dealer, on va dire, pendant les consultations, parce que c'est pas facile, on n'a pas forcément été formé à ça. C'est un peu ce qui contrastait aussi avec notre expérience médicale en France. C'est quelque chose pour laquelle on n'était pas formé, et on savait qu'on était la seule aide psychologique que ces personnes pouvaient avoir. Donc il fallait essayer d'appréhender les choses et en même temps de ne pas creuser trop profond, parce qu'on pouvait réveiller quelque chose qui serait après impossible à soigner. Donc c'était un peu un jeu d'équilibriste à faire pendant les consultations.
Est-ce que malgré tout ça, il y avait quand même de la joie au sein des campements ? Est-ce que les gens étaient quand même arrivés à s'amuser, à rigoler ?
Alors nous on n'est pas rentré dans le camp, mais par rapport aux les traducteurs et moi j'ai envie de dire heureusement qu'ils étaient là en fait dans la clinique, justement pour mettre un peu de bonne humeur, faire des blagues, détendre un peu l'atmosphère quand on est un peu trop sérieux dans notre rôle de médecin ou d'étudiant en médecine. Après, c'est aussi une barrière en fait, parce que ils vont faire beaucoup de blagues pendant la journée, mais ça, des fois le soir, on les voit aussi qui craquent et voilà, tout n'est pas. Donc oui, on arrivait à rire, mais on arrivait aussi vite à pleurer, quoi.
Ouais.
après sur les campements, je sais pas s'il y avait, enfin je pense qu'il y avait quand même un peu de joie, je sais que ça nous arrivait parfois d'avoir commandé des réfugiés qui nous ramenaient de la nourriture par exemple du camp, ou parce que la grand-mère avait fait c'était un peu la fête, du coup ils avaient fait un peu de nourriture, enfin il y avait encore quand même, je pense qu'ils gardaient une certaine
base. C'est des gens qui sont là depuis longtemps aussi, pour certains, et qui vivent en communauté, donc forcément en fait c'est un vrai, en plus à Samo c'est un vrai camp quoi, donc au final les gens sont installés et puis recréent un peu un quotidien, je pense, de par ce fait.
Pendant que je suis allée à votre exposition, j'ai vu sur une de vos affiches explicatives que dans le camp de Vati à Samos, il y avait quand même un tiers de la population qui était mineure. Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de migrants aussi jeunes?
Non. Enfin, vraiment, en plus, à la clinique, on avait beaucoup d'enfants, de bébés très jeunes. On n'imagine même pas, en fait, des enfants dans ce cadre-là, dans ces conditions-là. Enfin, c'était impressionnant, ouais. Le nombre d'enfants, en fait, qu'on pouvait voir par jour.
Puis le nombre de mineurs seuls aussi, de mineurs qui n'avaient aucune famille sur le camp. Donc ça, ouais, c'était assez... Et puis de se dire que donc, toutes ces familles ont décidé de partir de chez elles avec des bébés, avec des très jeunes enfants, des jeunes enfants qui ont parfois vu des choses tout à fait horribles, hein, la guerre, la torture, tout ça, et des enfants traumatisés, avec vraiment des séquelles graves, et pour lesquelles on pouvait non plus apporter aucune aide psychologique. On n'avait pas de pédiatre, on n'avait pas de psychiatre, de pédopsychiatre. Donc il y avait beaucoup d'enfants, je pense, qui ont subi.
Et du coup, en étant au quotidien dans ces camps, ou en tout cas à côté de ces camps, vous avez pu voir les réactions et les actions des habitants près des camps. Est-ce qu'ils étaient plutôt dans l'aide et le soutien, ou alors au contraire dans l'évitement des camps et des migrants? Anna?
Vraiment les endroits en fait où on a été, que ce soit à Calais ou Samos, les gens ils sont un peu épuisés de toute cette situation, parce qu'en fait encore plus en Grèce, c'est un endroit donc où il y a énormément de gens et c'est vrai que les locaux du coup ils en peuvent plus non plus de cette situation, et bien souvent soit ils évitent, soit ils sont complètement hostiles. C'est vrai que après, il y a des exceptions sûrement, mais c'est vrai que la majorité, quand même, c'était plutôt un sentiment d'hostilité, notamment à Samos, c'était vraiment visible dans les rues. Il y avait beaucoup de commerces, de restaurants qui acceptaient pas les migrants. Et c'était plus ça qui.
Enfin, même nous, en tant que bénévoles, on pouvait ressentir ça dans les commerces. Certains étaient très sympas et. Mais d'autres, on sentait que ils savaient qu'on était bénévoles, qu'on n'était pas d'ici et qu'on venait en aide aux réfugiés. Si on était là, c'était pas pour les vacances, quoi. Donc c'est vrai qu'on a, c'est assez compliqué. Aussi, on avait un collègue médecin qui lui était réfugié, mais qui habite en Angleterre maintenant depuis je sais pas, ça fait peut-être 5 ans qu'il est arrivé en Angleterre, et qui était venu donc pour aider. Et au bout de quelques jours, il veut aller chez le coiffeur et en fait, il revient à la maison en disant non, elle a pas voulu me coiffer quoi, parce que je suis réfugiée. Et alors que lui, il est médecin en Angleterre dans un hôpital prestigieux et il a pas compris, il s'est dit mince, enfin en fait, on est tous logés à la même enseigne. C'est vraiment du racisme en fait. Et c'était assez. Il était bien choqué, je pense. Et je pense que nous tous, en fait, on n'est pas du tout habitués à ça ici non plus.
On n'est pas habitués à ça quand on est blanc, quoi. On s'en rend peut-être pas compte, quoi.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez regretté ce projet parce que trop dur moralement, voire trop dur physiquement?
Alors moi, non. C'était très dur mais très riche en même temps, Et personnellement, je ne regrette pas du tout ce qu'on a pu faire ou voir, même si c'était très dur, on s'est senti utile, en tout cas sur le moment. Après, c'est une grande question de savoir si est-ce qu'on fait pas juste, est-ce qu'on perpétue pas juste un cercle vicieux où les États se déchargent sur les associations en se disant bah, de toute façon, si on fait rien, il y aura toujours les assos. Ça, c'est une question à laquelle bon, j'ai pas la réponse là, mais en tout cas sur le moment, je pense qu'on s'est senti utile et c'était très riche pour nous également, quoi. Donc pour ma part, pas du tout de regret.
Non, pas de regret. Il y a eu des moments où c'est vrai que c'était dur.
Puis on avait quand même la chance aussi d'être toutes les trois. Voilà, on se connaît quand même un peu depuis assez longtemps, et c'est vrai que c'était bien de, je pense, d'aller dans ces endroits, dans ces contextes à trois.
On se retrouve juste après avoir écouté I Don't Belong de Fontaines D.C. Toujours sur Radio U, dans la quotidienne, c'est vous qui le dites. Et on est toujours avec Anna Garaoui, Clara Cadiou et Elena Urien, qui nous parlent de leur expérience dans des camps de migrants. Est-ce que ces quelques mois vous ont donné une autre vision de la médecine, voire vous ont influencé sur vos choix de carrière dans le médical ?
Moi, ça m'a donné envie de faire de l'humanitaire plus tard. J'envisage la médecine générale et du coup... Oui, ça m'a donné envie d'essayer de partir en mission ponctuellement, si j'en ai l'occasion, en médecine. Ouais.
Et ouais, je pense que ça a aussi redonné du sens un peu à nos études. Je pense qu'on a sorti un peu de l'hôpital français, ça a fait du bien. C'était vraiment une belle expérience.
Anna ?
Oui, je parle la même idée. Ouais.
Et est-ce que faire cette exposition, c'est une manière pour vous de prendre de la distance, peut-être même de faire une sorte de catharsis de ce que vous avez pu voir?
Bah oui, ça permet de témoigner tout en étant de retour en France et de prolonger un peu le projet de voilà pas juste y aller et puis rentrer chez soi, mais en fait voilà d'apporter un témoignage par le biais de la photographie quoi.
Et comment vous avez choisi du coup les photos qui sont exposées actuellement?
Eh ben, comment est-ce qu'on a choisi? On a fait un premier tri et enfin, on s'est aidé. On a été aidé par des amis, notamment. On faisait du woofing cet été. On a été aidé par des amis qui étaient complètement en dehors du projet et puis qui nous ont un petit peu donné leur œil, voilà, pour choisir. Après, comment est-ce qu'on a choisi chaque thème? Je sais pas. Des gens qui nous ont touchés, envie de faire des portraits.
Et puis envie beaucoup aussi d'expliquer le contexte. En fait, on s'est dit que c'était vraiment aussi le but de l'exposition, justement en mettant vraiment les lieux de Calais, expliquer à la fois les associations, mais aussi ce qui se passe là-bas, en fait, ce qu'on a vu.
Et justement, en parlant de contexte, c'était important pour vous qu'il y ait des panneaux explicatifs tout au long de l'exposition, donc pour situer vos photos et la vie dans les camps pour des personnes qui ne sont pas du tout informées.
Ouais, et puis ça s'est fait un peu spontanément en fait. On s'est dit faut qu'on explique et chacune a, on s'est réparti un peu les sujets qu'on voulait aborder et puis chacune a écrit ce qu'elle avait envie d'écrire sur le sujet et tout simplement.
On a peut-être un peu peur aussi que les photos, enfin on avait, je sais pas.
Oui, parce que après on n'était pas notre, enfin c'est pas notre domaine en fait, donc on s'est dit nous ce qu'on sait faire c'est peut-être juste de témoigner aussi sur ce qu'on a vécu là-bas, donc ça nous semblait logique de
D'écrire.
Ouais.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci.
Donc je le rappelle, c'était Anna Garaoui, Clara Cadiou et Elena Urien qui sont venues nous parler de leur expérience dans les camps de migrants et dont elles ont fait des photos que vous pouvez retrouver dans l'exposition Sclérigène à la MJC de l'Arteloire jusqu'au 23 octobre. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec L'île aux femmes. Une chronique, radiophonique produite par la CORLAB, la coordination des radios locales de Bretagne, en partenariat avec HF Bretagne. Bonne soirée sur Radio U. Dans l'imaginaire collectif, des femmes en armes, on les représente uniquement en hors-la-loi. Mais des femmes qui ont pris les armes, au même motif que les hommes, par soif de vengeance, par désir de protéger sa commune, son pays, il y a dû en avoir aussi dans l'histoire.
Femmes, chronique du matrimoine breton.
On retient souvent chez les femmes celles qui ont été hors la loi. Alors celles-là, elles frappent l'imagination, elles, on parle d'elles. Par exemple, on va parler de Marion Dufaouette.
Comme l'explique Nathalie Debroc, des femmes hors la loi, des affranchies, on en connaît. Mais les femmes se sont-elles engagées? Ont-elles pris les armes lors de la Révolution, par exemple?
Alors, en effet, on trouve très peu de traces de femmes en armes dans les affrontements de la période révolutionnaire.
Solène Mabot est universitaire. Elle a mené une recherche sur l'engagement des Bretonnes pendant la Révolution française. Alors, je lui ai posé la question qui me taraudait l'esprit. Des femmes en armes, ça a dû exister, non?
On a quelques personnalités de Bretonnes qui émergent comme des combattantes. On peut déjà distinguer deux niveaux très différents. Le premier, ce sont des femmes qui s'engagent comme militaires dans l'armée de la République, sachant qu'elles n'en avaient pas le droit. Les femmes sont traditionnellement éloignées de la guerre.
En effet, en 1793, un décret rappelle que les femmes doivent sortir des armées, sauf quand elles y assument des rôles traditionnels comme cantinières. Néanmoins, quelques femmes ont combattu dans les rangs de l'armée. Une Bretonne est d'ailleurs connue pour cela, Marie-Angélique Duchemin, la première femme à avoir reçu la Légion d'honneur.
Elle est fille de soldat, épouse puis veuve de soldat, donc elle est née à Dinan. Et elle a grandi auprès de la troupe, elle a mené une vie de garnison et s'est engagée donc dans les armées de la République où elle a combattu, elle s'est illustrée dans des combats et elle sera finalement reçue aux Invalides parce qu'elle est blessée lors de sa carrière militaire et recevra au seuil de sa vie la Légion d'honneur, donc au début du Second Empire.
Pour mettre les choses en perspective, à l'échelle nationale, on compterait moins d'une centaine de femmes à avoir combattu dans les rangs de l'armée régulière. Mais est-ce que les femmes ont pris les armes autrement qu'en s'engageant dans l'armée ?
À côté de ce champ des engagements armés, donc dans les armées régulières, des femmes ont pu prendre les armes autrement en s'engageant dans des affrontements plus locaux. Donc par exemple en Bretagne, hein, la Bretagne dans la Révolution est traversée par une situation de guerre civile larvée avec des bandes de chouans essentiellement composées de paysans qui prennent les armes contre la République. C'est une situation de guerre civile qui va durer plusieurs années, de 1794 à 1800 environ. Et dans ce cadre-là, des femmes participent à cette guerre civile. Rarement toutefois dans la position de combattante. Donc on a quelques cas de femmes qui ont pris les armes, mais qui restent des figures exceptionnelles. On a par exemple la mention d'une certaine Victoria, aussi nommée dans les sources le capitaine Victor. On sait très peu de choses sur elle. Et cette femme, qualifiée par les autorités de femme féroce, reste très largement mystérieuse. À côté de cette femme, on a des cas épars de femmes de milieux populaires qui ont pris les armes, soit du côté des chouans, soit à l'inverse, du côté des républicains. Et par ailleurs, on a aussi des cas de femmes qui ont pu prendre les armes de manière exceptionnelle lorsque leur village ou leur commune donc était attaqué.
Une femme est restée dans les mémoires, Marie Collin.
C'est une jeune paysanne, elle vit dans la région de Fougères, dans la petite commune de Rimoux. Et lorsque la population se trouve assiégée par une bande de chouans en 1795, elle aurait, selon la mémoire locale, participé, les armes à la main, à repousser donc cette attaque de chouans. Elle aurait été accompagnée de deux autres femmes qui auraient pris les armes à ses côtés.
Et 100 ans plus tard, à l'occasion d'un banquet patriotique, une image la représentant portant un fusil orne le menu.
Donc dans ces situations exceptionnelles où il s'agissait de défendre sa communauté face à un danger, prendre les armes pouvait être valorisé pour une femme et rester ainsi dans les mémoires comme une attitude héroïque.
Dernière question, si les femmes étaient tant écartées du combat, avec quoi se battaient celles qui parvenaient à arriver sur le front ?
Les femmes vont être armées essentiellement d'armes très rudimentaires, elles sont armées de pierres et presque que de cela, tandis que les hommes, eux, peuvent être dotés d'autres types d'armes, des bâtons bien souvent, mais aussi des fusils. Même dans la révolte, où là on est dans un cadre de subversion du quotidien, de l'ordinaire, les